Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Chers bien-aimés en Christ des États-Unis d'Amérique, de France, du Burkina Faso, du Gabon, du Togo et bien d'autres pays, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Les chants que nous aurons à étudier les quatre dimanches prochains sont en Névé, une des langues parlées au Togo. Pour entamer cette série d'émissions dédiées aux cantiques en Névé, nous avons fait le choix d'étudier un chant pour soutenir tous ceux qui traversent une épreuve et pour affermir leur foi. Frères, écoutons ensemble le cantique Mahou Dwankou Digné, ce qui signifie en français « Dieu se souvient de moi », interprété par Presbyterian Royal Voice. Je vous laisse écouter le chant. Digné, un cantique constitué de trois couplets et d'un refrain. Découvrons dès à présent les paroles du cantique en Névé en français avec Laurent, que nous saluons et que je salue de passage. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Olivier.
Voilà, nous entamons une série d'études de chants en Névé et nous commençons avec cette chanson-là. Oui. Dieu souviens-toi. Souviens-toi de moi, ou bien Mahou Dwankou Digné. On va aller avec les paroles en Évé et en français. On y va avec toi.
Oui, ben je vais commencer avec le premier couplet qui dit Les Nye Hachao Katame, Les Nye Veveo Katame, Jidwa Ponye, Menye Bena Mahou Dwankou Digné. Deuxième couplet Nou Pekea Meo va djigné. Hedou angondi na nye louvan. Djidwa pounye, me nye bena, ma oudou anko djigné. Troisième couplet, le djogbe nui kle van siyame. Ne nou wo nyon alo blenam. Jidwa ponye, me nyebe na maou doankou djinye. Le refrain dit ceci, maou doankou djinye. Maou doankou djinye. Maou liklim, nou kata mavon. Maou doankou djinye. Alors, le rendu en français donne ceci. Premier couplet, dans toutes mes difficultés, dans toutes mes souffrances, je suis confiant car je sais que Dieu se souvient de moi. Deuxième couplet, les problèmes m'ont assailli, faisant peur à mon âme, je suis confiant car je sais que Dieu se souvient de moi. De troisième couplet, tant dans le bonheur que dans le malheur, lorsque tout va bien ou mal dans ma vie, je suis confiant car je sais que Dieu se souvient de moi. Le refrain dit ceci, Dieu se souvient de moi, Dieu se souvient de moi, Dieu est avec moi. Pourquoi aurais-je peur? Dieu se souvient de moi.
L'autre Laurent, quelles informations as-tu pu recueillir sur l'auteur ou le compositeur du cantique?
Bon, le cantique dans sa forme enlevée est l'œuvre traduite par Franck Capoin-Niakou en 1993. Rappelons que Franck est membre de l'église évangélique presbytérienne du Ghana, mais en même temps membre de l'équipe chargée de la révision de la cinquième édition de l'hymne, hymne de l'église presbytérienne du Ghana et du Togo. Voilà, donc nous n'avons pas pu remonter jusqu'à l'auteur du cantique.
Donc c'est déjà suffisant, donc cela vient d'un Ghanais, Oui, bien sûr. D'un Ghanéen.
La traduction.
La traduction vient d'un Ghanéen. On n'a pas pu remonter l'original du...
Jusqu'à l'original.
De, de la chanson. Très bien. Mahou Douankou Digné, c'est un chant qui donne en français « Dieu se souvient de moi ». C'est bel et bien ça. « Dieu se souvient de moi ». On va encore écouter la chanson, oui. Et on va passer après aux commentaires, vous le savez très bien dans cette émission. Nous avons l'habitude de prendre un chant, un cantique, chrétien bien sûr, et nous essayons de le comprendre au travers de la parole de Dieu. On réécoute Mahou Douankou Digné. On y va avec la chorale. De vous relire les paroles du premier couplet et je vais maintenant essayer après de poser une question. Je vais poser une question à l'autre Laurent pour que celui-ci nous explique au travers de la parole de Dieu ce qui est communiqué dans cette partie de la chanson. Alors, je relis les paroles. Dans toutes mes difficultés, dans toutes mes souffrances, je suis confiant car je sais que Dieu se souvient de moi. Alors, de par ces paroles, le compositeur reconnaît avec certitude que dans les difficultés qu'il traverse et dans toutes les souffrances qu'il vit, Dieu est avec lui. Mais comment sait-il que Dieu se souvient-il de lui? L'autre Laurent.
Bien, pour m'étendre sur la réponse à apporter la question, je vais d'abord... toucher un élément, c'est le fait de se souvenir, d'accord? Se souvenir, c'est avoir en mémoire quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Quand il s'agit d'un être humain, cela a un lien avec la présence. Quand la personne est là, on la voit, on n'a pas besoin de se souvenir. Quand elle n'est plus là, ou elle n'est pas là, on s'en souvient. D'ailleurs, c'est pour cela que une expression... provenant d'un vieux proverbe latin dit ceci, loin des yeux, loin du cœur. Ah, nous connaissons tous cet adage ou bien ce proverbe. Ça veut dire que lorsqu'on est éloigné de la personne aimée, les sentiments ont tendance à diminuer, à s'amenuiser, voire à s'éteindre. D'accord? C'est-à-dire que l'éloignement de deux personnes affaiblit l'affection qu'elles se portent mutuellement. Mais à côté de ça, il y a une autre expression je crois qu'elle prend à contre-pied la première, loin des yeux, près du cœur. D'accord? Et là, c'est une version plus élaborée, peut-être plus idyllique et plus réaliste. Ça veut dire quoi? L'amour pur et sincère n'a ni frontières ni distance. Pourquoi? Parce que cet amour résiste à tout. Lorsque l'on parle du premier amour qu'on a pour l'être aimé. D'accord? Maintenant, tout ceci, tout ce que je viens de dire, je vais maintenant le calquer sur la parole de Dieu. Alors, quand dans le titre il est dit « Dieu se souvient de moi », on peut reprendre la même chose sous une autre forme. « Dieu ne m'oublie pas ». D'accord? « Dieu se souvient de moi » équivaut à « Dieu ne m'oublie pas ». Là, c'est une expression anthropomorphique, c'est-à-dire on prend Dieu sous une forme humaine avec les émotions et les sentiments et tout ce qui va avec. D'accord? Bien, maintenant, quand je prends Adam et Ève, Dieu les visitait, n'est-ce pas? Donc, le jour où ils n'étaient pas venus, là, pour eux, il n'est plus là. Donc, ils ont perdu le fait qu'il les visitait. C'est pour cela qu'ils ont succombé à la tentation. Maintenant, quand on analyse les Écritures depuis la chute jusqu'à l'arrivée du Messie, Dieu a pris sur lui de visiter les hommes. Il vient, il s'en va. Il vient, il s'en va. Alors, quand tu prends l'histoire d'Abraham, Dieu vient, parfois sous une forme humaine, parfois il choisit de venir comme il veut, et après il s'en va, ainsi de suite. D'accord? Bien, là maintenant, dans Jean chapitre 1, il est dit que Dieu est venu et il a fait tabernacle au milieu de nous. Jean chapitre 1, d'accord? Et il est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Dans l'original, c'est, il a fait tabernacle. Ça vous rappelle le désert. Dieu qui choisit de venir rester au milieu de son peuple. Donc, comme je l'ai dit, autrefois, Dieu visitait les croyants. Maintenant, Dieu réside dans ses fils et dans ses filles. Mais la présence de Dieu dans ce cas de figure est conditionnée par la sainteté de vie et l'obéissance de ses enfants. Là, ça me rappelle aussi l'histoire de Jésus qui a dit que quand le mauvais esprit sort d'un homme, il va par les lieux arides, il cherche un endroit où rester. Quand il ne trouve pas, le démon se dit, je retournerai dans ma maison. Ça veut dire, l'être humain est une maison. L'être humain est un habitat. C'est un réceptacle d'une présence spirituelle, puisque Dieu, avant tout, est esprit. Et l'apôtre Paul a bien compris cela quand il voulait élaborer sur le Lévitique 26, verset 12, où il est écrit, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. » Là, pas à l'intérieur de vous, mais au milieu. Pourquoi? Dans le désert, vous allez voir le tabernacle et les tribus d'Israël campaient autour du tabernacle. D'accord? La présence était au milieu du peuple d'Israël. Et l'apôtre Paul maintenant, par rapport à la nouvelle alliance, l'apôtre Paul nous dit, là, nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. Donc il utilise Lévitique 26 maintenant pour transposer cela et nous expliquer la réaction actuelle que nous devions avoir sous la nouvelle alliance. Dieu ne vient plus nous visiter. Il vient résider en nous. Je viens toujours répondre à la question que tu as posée. Tu te souviens sur la croix, le brigand a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ça, c'est Luc 23, verset 42. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Automatiquement, Jésus a donné une réponse qui change la donne. Parce que dans l'Ancien Testament, plusieurs fois dans les psaumes et dans d'autres textes, vous allez entendre les croyants dire à Dieu, Éternel, souviens-toi de moi. Dieu, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi. Cette présence après laquelle tu soupires là, tu l'as. Quand nos deux corps deviendront inertes, parce que le brigand va mourir. D'accord? Le brigand va mourir, Jésus va mourir. Et il dit, quand ces deux corps-là seront inertes, en esprit, instantanément, tu seras avec moi. Maintenant, pour répondre à la question que tu as posée dans Isaïe 49, le verset 15, il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Le point de contact entre la mère Et le nouveau-né, c'est son corps. En l'occurrence, son sein. D'accord? Et ça, c'est ce qui est physique. Et Dieu dit, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Si cela advenait, moi, je ne t'oublierai point. En d'autres termes, une mère normale ne peut pas oublier le fruit de ses entrailles. Voilà pourquoi, quelle que soit la distance, lorsqu'un événement fâcheux arrive à un enfant, sa mère ressent. Parce que ce lien spirituel est toujours là. La mère ressent, mais ceux qui sont autour ne comprendront pas, mais elle ressent que quelque chose est en train d'arriver à mon enfant. Donc là, ça c'est la mère ça. Maintenant, en ce qui concerne le Seigneur, vous pensez que c'est de temps à autre qu'il pense à nous? Non. Vous pensez que devant les milliards d'individus qui lui font appel sur la face de la terre, il nous passe que c'est une liste là qu'il a devant lui? Ok, c'est les gens du Togo qui me parlent maintenant, après c'est les gens du Gabon. Non, c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Pourquoi? Il est esprit, ça c'est un deux, parce qu'il est Dieu. Si tous les 7 et 8 milliards d'habitants de la terre décident spontanément et instantanément chacun d'adresser une prière à Dieu, Dieu, dans sa puissance et dans sa préscience, écoutera chacun individuellement et parlera chacun individuellement sans être perturbé. Sans qu'il te dise, mon fils, tais-toi, je suis en train de parler à ton oncle d'abord. Non, il n'y aura rien comme ça. Frère, tais-toi, je vais parler au pasteur d'abord. Non, instantanément, il peut écouter tout le monde. C'est en cela qu'il est Dieu. Il est le créateur. Alors que les puissants des ténèbres ne pouvant faire ça, ils se passent la main. Beaucoup ont la fâcheuse idée de croire que le diable est omniprésent. Non. Il se sert de ses compagnons de misère là, et il vient ici, il trouble quelqu'un, il va ailleurs, ainsi de suite. Parfois même, c'est pas lui directement, c'est un démon qui vient en son nom pour venir perturber les gens. Donc, comprenons que Dieu, étant esprit, n'est pas lié par le temps ni la distance. Deux, Dieu étant le créateur, il peut nous prendre en charge tous spontanément. Frères et sœurs, lorsque Dieu, à travers nos parents, nous permet de venir dans ce monde, il nous prend en charge. Ça c'est un. Deux, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, dès cet instant, Jésus-Christ te prend en charge. Jusque dans les moindres détails, c'est parce que nous ne le savons pas que nous sommes craintifs ou bien que nous sommes perturbés. Il prend en charge chaque minute, chaque heure, chaque moment, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à ce que nous finissions notre course. Et il prend en charge tous nos besoins. Si vous comprenez ça, vous deviendrez tranquille parce que vous savez que Dieu est au contrôle.
Et c'est ce que le compositeur a fait ici, hein, je crois, parce qu'il le dit quelque part, déjà au troisième vers de la première strophe, il dit « Je suis confiant, car je sais que Dieu se souvient de moi. » Il a cette confiance, il a la foi que Dieu est avec lui et que Dieu se souvient de lui. C'est bien ça?
Oui, bien sûr.
Très bien. On va aller maintenant à l'étape suivante de la chanson, mais avant d'en arriver là, on réécoute le chant « Dieu se souvient de moi ». En Évé, Maoud en Coudigny. abordons dès à présent le refrain. Le refrain, les paroles du refrain se passent de commentaires. Et c'est même cette partie de la chanson, je vais dire, c'est le cœur même de la chanson, hein, l'autre rang. Hein, ouais. C'est le cœur même du chant, du cantique. Dieu se souvient de moi, Dieu se souvient de moi, Dieu est avec moi, pourquoi aurais-je peur? Dieu se souvient de moi. Comme je l'ai dit, Dieu est avec moi, pourquoi aurais-je peur? Qu'est-ce que cela peut inspirer comme commentaire?
Premièrement, la peur est introduite dans la création à travers la chute d'Adam et Ève. D'abord, c'est la raison pour laquelle les véritables anges qui sont au service de Dieu n'ont pas le sentiment de peur. Ils n'ont pas peur. D'accord? Ils craignent Dieu, mais ils n'ont pas la peur en eux. Ils ne connaissent pas la peur. Mais les démons ont peur. Et eux, ils tremblent, sachant qui Dieu est. Et nous, Adam nous a légué cela, la peur. Pourquoi? Quand ils sont tombés, quand ils ont entendu Dieu, ils se sont enfuis, ils se sont cachés. Donc la peur insinue un sentiment de culpabilité ou un sentiment d'insécurité. On ne se sent pas protégé, il y a le doute et cela crée l'anxiété. Que ce soit la peur des hommes, la peur des événements ou même la peur de l'inconnu. D'accord? Maintenant, quand l'auteur dit « Dieu est avec moi, pourquoi aurais-je peur ?» Je veux qu'on s'appesantisse quelques instants sur la personne de Dieu. D'accord? Je vais prendre un texte de l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 26. « Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, parlant des chérubins, bien entendu, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face. J'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait là. Donc, là, Dieu se révèle à Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète. Dieu se révèle à lui. Et ici, vous avez une révélation de celui qu'on appelle l'Ancien des Jours, l'Éternel des Armées, qui est assis sur son trône. L'image est en train de dire, hey, le Dieu que tes ancêtres ont adoré, ce Dieu qui se révèle à toi est un roi. Vous savez que les rois se faisaient porter par ils ont une sorte de quoi de dispositif là, on les portait sur des épaules ainsi de suite. Donc ce Dieu vient à lui et lui n'est pas porté par un être humain mais par les chérubins. À une façon de dire, écoutez, voilà qui je suis. Alors, lorsque Dieu par son esprit vient résider en nous, il vient dans sa forme telle qu'il est. Il vient avec feu, puisqu'il est feu et il est lumière également. D'accord? Vous vous souvenez quand Jean-Baptiste a dit Jésus nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême d'eau, nous le connaissons, c'est l'immersion, on nous plonge dans l'eau, nous ressortons. Notre corps est mouillé, n'est-ce pas? Maintenant, quand l'Esprit baptise l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Esprit immerge l'Esprit, quand l'Esprit de Dieu immerge notre esprit humain, ça veut dire quoi? Notre esprit humain est enveloppé complètement du feu de la présence de Dieu, de la lumière de Dieu. Et Jésus va dire, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Donc ça se passe d'abord à l'intérieur. Il nous immerge, nous sommes complètement entourés, enveloppés. Et ça maintenant jaillit à l'extérieur. Maintenant, nous portons cette présence comme étant un habit. Nous sommes revêtus. Donc cette présence-là, c'est le propre de tous les enfants de Dieu. Notre communion avec le Père se passe dans la lumière. C'est ce que l'apôtre Jean a dit. Que ce soit dans la lumière ou dans le feu, c'est là que se passe notre communion avec le Seigneur. Et notre responsabilité est de veiller à ce que la lumière ne s'éteigne pas. À ce que le feu ne s'éteigne pas. Donc si nous prenons conscience de notre identité, cela va engendrer la confiance absolue en Dieu, d'une part, et la conviction inébranlable en lui. Comprenons que Dieu n'est plus à l'extérieur en train de traiter avec nous comme il le faisait sous l'ancienne alliance. Il vient résider en nous. Et c'est la responsabilité de tous les serviteurs de Dieu qui enseignent le peuple de Dieu de leur montrer ce qu'ils sont effectivement devenus en Christ Jésus.
D'accord? Et là, ça permet à la personne de grandir rapidement. Pourquoi? Elle sait qu'elle n'est pas, juste là comme ça, mais que quelqu'un à l'intérieur, elle apprendra à comprendre comment Dieu lui parle. Parce que Dieu étant esprit, il ne parle pas comme les hommes. Donc, il va parler en tant qu'esprit à notre esprit humain. Et notre esprit humain a la capacité de cerner ce que Dieu dit. Maintenant, quand l'information doit migrer de notre esprit humain pour venir au niveau de notre âme, là où est logée les émotions, l'intellect, tout ça, si nous ne savons comment ça se passe, c'est là où les gens sont confus. Dieu dit quelque chose et ils se servent de leur cerveau pour tirer une conclusion et ils passent à côté de ce que Dieu est en train de dire. Donc, c'est important de comprendre pourquoi le Seigneur dira « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Tu vois, c'est une question de présence manifeste à nous. Maintenant, l'auteur dit, si Dieu est avec moi, pourquoi aurais-je peur? 1 Jean chapitre 4, verset 18, reprend la question. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est par l'amour que Dieu, au travers de son Fils, nous sauve de nos péchés. C'est cet amour qui le pousse à faire un pas de plus, à venir résider et prendre un risque. Dieu prend un risque de venir résider dans des êtres faillibles, faibles, qui à tout moment peuvent s'éloigner de... Il prend un risque de venir résider en nous pour qu'à partir de là, il puisse nous enseigner comment il veut que nous l'adorions. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit la crainte. Si nous comprenons cela, nous comprendrons que Dieu, étant en nous, veut que nous puissions échanger avec lui sur la base de l'amour. N'oubliez pas, quand la personne n'est pas là, l'amour que l'on a pour cette personne s'affaiblit. Maintenant que le Seigneur réside en nous, que nous sommes conscients qu'il réside en nous, notre amour pour lui doit pouvoir se consolider au fil du temps. Par quel moyen? Par la révélation qu'il nous donne dans sa parole et par la révélation qu'il donne par son esprit, par les expériences personnelles et individuelles que nous faisons avec lui. Frère, ça fait des années, ma soeur, ça fait des années que tu as toujours regardé à l'extérieur, sans savoir que la personne à qui tu t'adresses est à l'intérieur de toi. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, enseignant au peuple de Dieu là où Jésus se trouve. Il réside en chaque enfant de Dieu par son Saint-Esprit. Si vous faites cela, en moins d'une année, vous aurez moins de sollicitations de vos membres qui vont vous dire « quelque chose tremble, quelque chose fait ci ». Parce que maintenant, ils savent qu'ils sont devenus le temple de Dieu. Et là, leur marche dans la sainteté deviendra pratique. Et là, leur confiance en Dieu sera inébranlable parce qu'ils savent que celui qui est en eux là ne va pas déserter quand ils feront face à des difficultés. Donc, la personne qui te parle est à l'intérieur de toi. C'est de là que se passe l'adoration. C'est pourquoi Jésus a dit, Dieu est esprit. Donc l'adoration se fait dans ton esprit humain régénéré. Ça commence par là, avant de s'extérioriser pour que le corps puisse, synchronisée, suivre ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Très bien. Vous venez de nous rejoindre sur cette antenne. Nous vous rappelons que vous êtes bel et bien à l'heure de l'émission Études sur Cantique et nous sommes en train d'étudier un chant enlevé, Maou doit continuer. En français, ça donne ceci, Dieu se souvient de moi. On va encore écouter cette chanson en entier et on va passer au deuxième couplet de la chanson. second couplet, il est dit ceci. Les problèmes m'ont assailli, faisant peur à mon âme. Je suis confiant, car je sais que Dieu se souvient de moi. Dans ce second couplet, le compositeur relate une autre expérience plus corsée qu'il a vécue. J'ai l'impression. Il est passé de l'étape de difficulté et de souffrance. Là, ça devient beaucoup plus terrible. Et dans cette expérience-là, il demeure néanmoins confiant. Et c'est que Dieu se souvient toujours de lui.
Là, tu vois, dans le rendu en français, il dit « faisant peur à mon âme ». Parce que les émotions sont logées au niveau de l'âme de l'homme, d'accord ? Donc, lorsque les problèmes submergent ou assaillent le chrétien, cela a pour conséquence de créer dans le chrétien l'insécurité. Il a l'impression que Dieu s'est éloigné. C'est une illusion que Dieu s'est éloigné. Et l'objectif de l'ennemi, c'est d'isoler le chrétien, de l'affaiblir, et pour finir, l'éloigner réellement. Au début, c'est une illusion. Maintenant, il éloigne réellement de Dieu pour le temps et pour l'éternité. Le pousse à dire quelque chose qui neutralise le fait de la parole de Dieu dans sa vie. Il le pousse à poser un acte qui déshonore Dieu, et de ce fait, il devient une proie facile.
Très bien. L'autre Laurent, s'il te plaît, est-ce que nous avons bien traduit « nous pekeamé » C'est pas un peu plus fort que les problèmes que nous avons rendus en français, là c'est
Oui, mais « nous pekeamé » ici prend la forme d'adversité. D'accord, parce que c'est vrai que de ce côté-ci, en tant que francophone, on a l'habitude de dire j'ai des problèmes, mais les problèmes sont stratifiés.
Voilà.
Il y a de l'adversité.
C'est comme le cas de Job.
Voilà.
Les problèmes venaient au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Celui-ci finit de raconter, l'autre vient.
Et vous allez voir que là, dans l'attaque survenue dans la vie de Job, c'était stratégique. L'attaque a frappé les éléments les plus... C'est le fondement même de sa vie. Ça a frappé ses enfants, non?
Oui.
Parce qu'en tant que parents, nous tous, nous avons des sentiments pour nos enfants.
Oui.
Donc, quand ça frappe à ce niveau-là, normalement, lui, un croyant qui ne se reproche rien et qui sait que son Dieu l'aime, d'un seul coup, il a l'impression qu'il y a un aspect de Dieu que je n'ai pas connu jusque-là. Peut-être que ce Dieu-là, tu vois, c'était l'objectif, l'amener à maudire Dieu, l'amener à s'avilir devant Dieu. Comme cela, le même démon qui t'a poussé à dire des choses contre Dieu va dire à Dieu, ta parole dit, tu ne maudiras pas ton Dieu. Alors, il t'a maudit. Alors, j'ai le droit de l'affliger. Dieu ne pourra en somme rien pour vous. C'est pour cela que, lorsque nous traversons les situations difficiles, il ne sert à rien de s'apitoyer sur soi. L'apitoiement sur soi n'est pas un acte de foi. C'est de l'incrédulité. Nous pouvons exprimer ce qui nous arrive, mais s'apitoyer sur soi au point que des gens disent des choses, des choses les plus terribles. D'accord? Donc ici, nous comprenons l'objectif de l'adversité. Ça vient comme des flots incessants. Ceci t'attaque, après un autre vient. Le temps que tu essaies de régler ça, un autre vient. Quand ça se passe comme ça, frère, c'est pas le moment d'utiliser le cerveau. C'est le moment de prendre du recul. C'est en ce moment qu'on cherche la face de Dieu. C'est en ce moment qu'on se revêt de l'armure de Dieu. C'est en ce moment qu'on devient agressif en connaissant la source. La source, c'est pas les hommes. Les hommes sont juste des instruments utilisés. La source, c'est les démons. Quand tu auras traité avec les démons, ces hommes-là vont redevenir calmes. Tu vas les dompter. Donc là, en réalité, c'est quand l'adversité survient dans notre vie, elle nous pousse plutôt vers Dieu. L'objectif est de nous éloigner de Dieu. Elle nous pousse vers Dieu, car la détresse est en réalité un tremplin pour nous propulser. Dans notre expérience avec Dieu, le tremplin, c'est quoi? C'est cette planche-là qu'on a au bord des piscines, tu montes dessus, et selon que tu as exercé de la pression, ça te pousse d'abord en haut, et plus loin, et puis tu vas avoir de belles expériences de la natation. Donc, là, l'adversité qui avait pour objectif de nous éloigner de Dieu, nous propulse toujours dans les bras de Dieu. C'est ce qui se passe quand nous continuons à avoir foi en lui. Voilà pourquoi, à la fin de l'expérience de Job, il a grandi dans son expérience avec Dieu. Donc là, dans ce cas de figure, Dieu devient plus réel pour nous. Et notre prière devient plus sincère et franche. Tu sais qu'il y a des moments où, selon que nous sommes habitués à prier, il y a des moments où des prières sortent juste comme ça. Mais quand on traverse ces moments-là, chaque mot qui va sortir, on réfléchit.
Et parce que là, on sait maintenant que je n'ai personne d'autre si ce n'est Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire des disciples de Christ sur la mer, Marc chapitre 6, verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Le Seigneur savait ce qu'il faisait. D'accord? Il continuait comme s'il allait le dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est la quatrième veille de la nuit. C'est la nuit qu'on voit les fantômes, n'est-ce pas? Donc pour eux,
ils ont vu un fantôme.
Les pierres qui faisaient du bruit, tout le monde a commencé par crier. Des gaillards, hein, c'est des adultes. Ils ont commencé à crier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les fantômes relèvent d'un monde où les êtres humains ne peuvent rien faire. Donc là, ils ont commencé par crier et ils poussaient des cris. Mais quand tous le voyaient et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Quand tu lis même cette phrase-là, tu vois, ça met fin instantanément à leur frayeur. Donc, l'objectif ici, c'est de leur enseigner qui Jésus. C'est un autre aspect de la personne de Jésus, de leur enseigner cela. N'oubliez pas juste que là, Jésus est à l'extérieur d'eux. Il ne vit pas encore en eux. C'est après la Pentecôte maintenant qu'il reviendra vivre en eux par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, ils étaient en train de faire l'expérience comme l'expérience des saints de l'Ancien Testament. Donc, il y aura une phase de transitoire où maintenant, il viendra résider en eux. Donc là, nous comprenons ce qui arrive lorsque nous n'arrivons pas à avoir le contrôle de la situation. Et quand vous lisez les psaumes de David, il a souvent parlé de détresse dans ses psaumes. Hein, et vous savez que son problème a commencé quand il était devenu l'ennemi numéro un du roi. Il était devenu un fugitif, un exilé, loin de son peuple et tout le reste. Mais lorsqu'il est devenu roi, la crainte et tout cela a disparu. Donc, lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes en Christ, cela nous donne d'avoir plus confiance en Dieu. Et c'est un signe de maturité. Et quand la personne n'est pas encore mûre, quand un événement survient, elle s'agite. Hein? Élisée, depuis qu'il a vu Élie partir là, et que ses yeux spirituels étaient ouverts, parce qu'on ne peut pas être prophète et aveugle. Donc il voyait ces chars de feu là depuis. C'est pour cela que le matin, quand il s'est réveillé tranquillement, et il voyait les chars de feu qui entouraient d'abord lui. Les chars physiques, là, étaient à l'extérieur de là où se trouvaient les chars de feu. Maintenant, le jeune, là, lui, comme il n'avait pas son jeune serviteur n'avait pas les yeux spirituels ouverts, lui n'a vu que les chars physiques. Et il était agité, il avait peur. Et donc, Élisée n'allait pas passer son temps à faire une démonstration du monde spirituel, il a juste dit à Dieu, ouvre les yeux à ce jeune homme-là. Quand il a vu en même temps, il s'est calmé.
Il s'est calmé, oui.
Vous voyez un peu? Oui. Naturellement, 99,+% des êtres humains sur la face de la terre ont les yeux spirituels fermés. Ils ne voient pas. D'accord? Et maintenant, c'est moins d'1% poussière là qui voit. Et vous allez voir que la réaction de ceux qui voient diffère de la réaction de ceux qui ne voient pas. Je parle du point spirituel. Quand quelqu'un a les yeux spirituels ouverts, quand il est actif spirituellement, pendant que les charnels seront en train de trembler, lui, il maîtrise la situation, non? Puisqu'il sait que les décisions se prennent dans le monde spirituel et maintenant se traduisent dans les faits sur le plan physique. D'accord? Donc, en tant que chrétien, apprenons que nous sommes le temple, que le Seigneur réside en nous. Et il est normal pour un enfant de Dieu d'avoir ses yeux spirituels, ses oreilles spirituelles, ses sens spirituels activés. Laissez tomber la religion. La religion ne vous permettra pas d'aller au ciel. Le ciel, ce n'est pas pour les religieux. D'accord? Vous êtes né de nouveau. Permettez à l'Esprit de faire son œuvre en profondeur en vous. Ce Jésus dont nous parlons là, le jour où vous aurez juste un aperçu de qui il est, ça va changer votre langage, ça va changer votre confession de foi. Donc, la vie chrétienne, c'est pas la religion. C'est une relation. C'est une expérience.
tant dans le bonheur que dans le malheur, lorsque tout va bien ou mal dans ma vie, je suis confiant car je sais que Dieu se souvient de moi. Les paroles du dernier couplet. Alors, ces paroles-là traduisent, traduisent l'état d'âme d'un expérimenté. Quelqu'un qui a connu les souffrances, qui est passé par des difficultés, qui a été assailli de tous côtés par des problèmes ou bien par des adversités. Il dit maintenant, il est prêt dans ce troisième couplet, il ne fuit plus les problèmes ou les situations contrariantes. Au contraire, il est prêt à les affronter. Et même ses propos me rappellent ceux tenus par l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 33 au verset 39. Parce que là, ici, il est en train de dire, tant dans le bonheur que dans le malheur, lorsque tout va bien ou mal dans ma vie, je suis maintenant confiant car je sais que Dieu se souvient de moi. Quelqu'un qui a fait une expérience et qui est prêt maintenant à affronter les défis de la vie.
Oui, mais ici, nous sommes en train de, quand nous parlons de ce souvenir, nous avons dit, ça peut être rendu par, ne m'oublie pas, Dieu ne m'oublie pas. D'accord? Et là, comme tu l'as dit, quand l'auteur dit tant dans le bonheur que dans le malheur, ça voudrait dire que maintenant les expériences du passé l'ont aguerri, l'ont préparé, a fait face aux défis auxquels il est confronté en tant que chrétien. D'accord?
Bien sûr.
Et donc il a grandi et il a pris conscience de son identité. Que quelles que soient les situations de la vie, il ne va plus douter de Dieu. D'accord? Lorsque nous grandissons dans notre relation avec Dieu comme fils. Parce que là, dans Jean 1, il est dit, il nous a donné le pouvoir de devenir fils. Devenir fils. D'accord? Donc, enfant, fils ou fille, et homme. D'accord? Homme de Dieu. Enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, homme de Dieu. Donc, il y a une gradation. Il y a une croissance. D'accord? Donc là, dans ce cas, nous ne sommes plus agités parce que, individuellement, chacun sait, oh, tu sais, mon père est au contrôle. Et on n'a pas peur. Pourquoi? L'adversité devient une école. Et nous apprenons de cette adversité. C'est une université. Et ça nous fait grandir dans notre connaissance de Dieu. C'est de la croissance. C'est la croissance dans notre connaissance avec Dieu. Dans le désert, je l'ai dit tantôt, le tabernacle était au cœur du peuple, était au milieu du peuple. Le peuple campait autour du tabernacle. Maintenant, sous la nouvelle alliance, chacun devient le temple ou le tabernacle de Dieu. D'accord? Et nous sommes sous la protection de la garde rapprochée du ciel, les anges de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, autour de ceux qui sont devenus son temple, parce que son temple est sacré et il ne veut pas que ce temple-là souffre de quoi que ce soit. Alors, si nous comprenons la chose de cette façon, l'Écriture dit que l'ennemi rôde, comme un lion, tout ça, mais celui qui a grandi et qui comprend qui il est devenu et qu'il est protégé, cette personne, elle est sereine. D'accord? Pourquoi? Elle va se dire, mais je suis protégé. Si l'ennemi s'approche trop près de moi, la lumière de la présence de Dieu en moi l'aveuglera. Ça, c'est un. La chaleur du feu de la présence de Dieu créera l'épouvante chez l'ennemi et l'ange de l'Éternel le mettra en fuite. Il tombera, il ne se relèvera plus et il ne s'avisera plus de revenir. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Quand vous regardez à la télé ou un peu partout, quand les autorités se déplacent, pourquoi ils ne sont pas inquiets? Parce que, ils savent que le protocole fait son boulot. Les gardes rapprochés font leur boulot, le service de renseignement fait leur boulot, donc leur sécurité et sûreté est assurée. D'accord? Vous ne verrez jamais un président regarder à gauche et à droite, un ministre comme s'il a... Non, il est tranquille parce que il sait que pour ce qui concerne les tout est sous contrôle. Donc, si tu es fils, si tu es fille de Dieu, tu es protégé par les anges de Dieu. Et il arrive des moments où, dans la prière, quand tu demandes à Dieu, Père, envoie des anges, ils vont venir. Ils vont venir. C'est parce que nous banalisons ce que nous sommes devenus. C'est pourquoi on se réduit à ce qu'on voit aujourd'hui là, un christianisme bon marché, des chrétiens facilement manipulés, tout ça là. Non. D'accord? Donc là,
Tu es le temple de Dieu. Tu n'es pas un magasin. Quand il y a rupture de stock, le magasin est vide. D'accord? Mais le temple là, celui qui est dans le temple est toujours là. Le résident permanent du royaume de Dieu est en toi. Si tu prends conscience de ça, quand les problèmes sont là, tu ne trembles pas. En fin de compte, ce qui vient t'assaillir, c'est ça qui tremblera et s'en ira. Jésus a dit, Jean 14, avec ça je vais finir, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Notre relation est fondée sur l'amour. Ne mettez pas autre fondement, c'est l'amour. Et il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Ici, la connaître à lui, c'est je me révélerai à lui. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 11, là, il a dit quoi? Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça n'a rien à voir avec la théologie, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une relation dynamique. Et il continue en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu dois prendre conscience du fait que tu es le temple de Dieu. Et Dieu est le temple, est dans le temple. Dieu est dans le temple. Et par conséquent, tu ne dois pas trembler. D'accord? Tu ne vas pas flancher devant les défis, non. Parce que tu sais que ton Père est au contrôle. Tu sais que Jésus maîtrise la situation. Ce démon qui te perturbe là, c'est parce que toi-même tu lui as laissé l'occasion, lui as donné l'occasion, tu lui as prêté le flanc. Si tu te retournes, tu dis, ça va, maintenant là, ça suffit. Il va partir, non? Le diable ne comprend qu'un seul langage. Le langage de la violence spirituelle. Pas contre les êtres humains. La violence spirituelle contre les démons. Ils vont fuir. Quand ils savent que tu sais, c'est parce que tu ne sais pas que tu es victime. Quand tu sauras qui tu es en Christ, tu ne seras victime ni des hommes, ni des démons, et ni des circonstances.
Merci, l'autre Laurent, pour ces commentaires et cette parole d'exhortation. Chers auditeurs, nous aurons à vivre des situations difficiles. Nous connaîtrons des temps de souffrance, d'adversité les plus atroces. Bien-aimés, tenons bon. Persévérons et soyons confiants. Dieu se souviendra de nous. Le jour où Dieu se souviendra de toi, il te mettra à la une et fera de toi un centre d'intérêt et d'attention publique. Frère, lorsque Dieu se souvient de toi, tout le monde parlera de ce que Dieu a fait de toi. Que Dieu vous bénisse à l'écoute des programmes de cette station évangélique. Au revoir et à dimanche prochain pour l'étude d'un autre chant en névé. Bye bye.